BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, on est ensemble en direct. On est en direct là, il est un peu plus de 9h30 à New York, ça y est, Wall Street est en train d'ouvrir avec BFM Bourse jusqu'à 18h. Il est là, John Plassard, Cité Gestion. Bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et Antoine Larigaudry, bonjour Antoine.
Bonjour Guillaume, bonjour John.
On est bien là, on est ensemble et Wall Street vient d'ouvrir. Comment ça se passe aux États-Unis, Antoine?
Pas très bien, un Nasdaq en baisse d'1,2%, c'est reparti sur ces mouvements de baisse qui touchent la tech américaine. Le Dow Jones, moins 0,43%, moins 0,76% pour le S&P 500. Ça y est, le VIX repasse le cap des 20 points. Aussi à 20,50 l'indice de la volatilité. Du côté des marchés européens, moins 0,91% pour le CAC 40 qui retombe à 8355 points, moins 1,55 pour l'Euronext Tech Leaders. On est dans le ton de l'ensemble des places européennes. L'Eurostock 50 perd 1,16%, mais il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que le dollar est en train de baisser.
Ah, figurez-vous,
l'euro remonte à 1,1424, l'or remonte nettement aussi, 4072 points sur l'once de métal fin. On aurait pu croire que ça servirait le bitcoin, mais non, il reste sous les 60 000 dollars. Mais il y a une petite impulsion qu'on n'avait pas vue depuis énormément de temps, c'est ce dollar qui baisse un petit peu. Alors, est-ce que c'est un mouvement technique de très court terme? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de s'enclencher? En tout cas, c'est notable aujourd'hui.
Et une valeur dont on va parler à Paris dans un instant, Exel, parce qu'apparemment, Safran s'intéresserait à Exel. Pourquoi pas pour racheter Exel? Là, le titre gagne 31% Exel. Waouh! Dans le secteur de la défense, cette pépite, notamment pour les drones sous-marins, vous savez, dont il est en question, et par exemple, pourquoi pas pour déminer certaines zones, par exemple le détroit d'Ormuz. Suivez notre regard. John, donc, Wall Street ouvre en baisse à nouveau avec cette question, quel sera le prix à payer l'IA? Est-ce que l'IA va aggraver l'inflation? Il se trouve qu'Apple et Microsoft augmentent le prix de certains produits pour répercuter la flambée des coûts des cartes mémoire. Déjà, commençons par Apple. Qu'a annoncé Apple et est-ce que c'est grave? Apple, hier, a vécu sa pire séance en plus d'un an.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, on en parlait il y a 10 jours de ça ensemble. On disait que le prix des mémoires, le prix des semi-conducteurs, parce qu'il n'y en a plus tellement, eh bien, va pousser au prix que vont payer les consommateurs. Assez intéressant. Vous savez, si vous parlez du modèle MacBook Air 13 pouces, eh bien, il passe de 1099 à 1299. Pour le MacBook Pro 16, on passe de 2 500 $ à 3 000 $. Et si vous prenez certains MacBook Pro haut de gamme, eh bien, ils atteignent actuellement près de 10 000 $. Donc, évidemment, on est à un moment où on se dit jusqu'à quel point est-ce que le consommateur va accepter les hausses de prix. Alors, Apple l'explique, évidemment, en répétant ce qu'on avait dit il y a 10 jours ensemble, c'est que la demande liée aux centres de données, les data centers d'intelligence artificielle, eh bien, ça provoque une explosion sans précédent du coût de la mémoire et du stockage. Donc, d'un côté, on avait l'exemple hier, hein, Micron, chiffre extraordinaire, mais Micron peut se permettre d'augmenter le prix de ses puces, de ses mémoires. Mais d'un autre côté, si les constructeurs de téléphones notamment, eh bien, s'ils veulent garder leur marge, ben, ils doivent augmenter les prix. Et c'est ça le problème. Et le futur, vous savez, on parle beaucoup du futur iPhone pliable, eh bien, il pourrait dépasser les 2 000 $. Et ça, c'est assez incroyable, à savoir si ça va être digéré par le consommateur.
Oui, Apple va augmenter le prix de la plupart de ses produits phares, parfois de 20% effectivement, et Microsoft aussi va augmenter le prix de ses consoles de jeux vidéo du fait de cette même envolée des composants provoqués par l'IA.
Oui, les consoles Xbox, mais ce n'est pas la première fois. C'est la troisième fois en 13 mois, donc en près d'une année, donc c'est assez incroyable. Donc évidemment, ils invoquent, c'est la même chose, la flambée des coûts des composants électroniques. Et Microsoft va augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses consoles de jeux vidéo Xbox dans le monde, pas seulement aux États-Unis, à partir du 1er août. Donc, si vous voulez la nouvelle Xbox, il faut vraiment courir en magasin parce que c'est bientôt que les magasins vont augmenter les prix. Et évidemment, cette hausse, que ce soit pour Apple, que ce soit pour Microsoft, ça confirme que la demande liée à l'intelligence artificielle, bah, ça dépasse encore largement les capacités de production. Et ça, c'est vraiment très important, surtout pour ceux qui fournissent. Vous savez, on faisait la comparaison avec les mines d'or. Ceux qui ont gagné de l'argent au début, ben, c'est ceux qui avaient les pelles et les pioches. Mmh. Eh bien, là, on est, si on parle de Samsung, Micron, SK Hynix, c'est ça les pelles, c'est ça les pioches. Et on y est exactement. Et on sait que les gagnants de l'IA, parce qu'il y en aura, hein, ne seront pas uniquement les éditeurs de modèles, mais aussi toute la chaîne de valeur des composants électroniques.
Les analyses de JP Morgan nous offrent une perspective là-dessus assez renversante. Ils chiffrent la part des cartes mémoire, on va le résumer comme ça, dans le coût total des composants d'un iPhone, de 10-15% aujourd'hui à 45%. 45% du prix d'un iPhone, ce serait les DRAM et les NAND d'ici 2027. D'après JP Morgan, je vois que ça vous fait réagir, John.
Oui, tout à fait, parce que vous savez, il y a une étude qui vient d'être faite de la part de Bloomberg qui dit que si vous augmentez de $100 les modèles pro des iPhones, hein, si on revient sur les iPhones, ben, ça permettrait de compenser près de 78% de l'augmentation des coûts. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, si vous avez un iPhone, eh bien, c'est que les prix, c'est pas la première fois qu'ils augmentent. Les prix augmentent chaque année à cause d'un nouvel appareil photo, à cause de nouvelles mémoires, etc., etc. Et là, donc, c'est compliqué. Le pricing power, le pouvoir de fixation des prix de ces groupes commence à s'éroder de plus en plus. Et donc, effectivement, ça devient vraiment très compliqué.
Wall Street en baisse et dans la tech, alors que le Nasdaq perd 1% et signe à nouveau la plus forte baisse des trois indices, cette autre interrogation. Finalement, OpenAI parviendra-t-il à s'introduire en bourse cette année? Parce qu'on pouvait croire que ça aurait lieu cette année. Pas forcément, d'après le New York Times, on pourrait même avoir un report plutôt à 2027. Qu'est-ce que ça dit, ça, John?
Ben, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Si ça devait être le cas, c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est toujours selon le New York Times, en fait, OpenAI attendrait un environnement de marché ou une fenêtre un peu plus ouverte, plus favorable pour les valeurs technologiques. Alors, c'est assez incroyable parce que, en fait, on sait qu'on a eu quelques coups de semonce sur les valeurs de la tech ces dernières semaines, mais ça a duré 1, 2, 3 jours. Allez. Mais là, on a l'impression qu'OpenAI se dit qu'il y aura beaucoup plus de volatilité que durant le début de l'année. Et donc, ils préfèrent repousser à 2025. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur SoftBank. Parce que SoftBank devrait détenir près de 65 milliards de dollars d'OpenAI d'ici octobre. Donc, il voudrait certainement faire quelques profits, cash out, comme on dit, aux États-Unis. Et évidemment, vous avez les chefs de file, hein, dont on a beaucoup parlé, les banques, hein, Goldman Sachs, Morgan Stanley, qui travaillent sur l'opération, qui auront cette manne financière, parce qu'il y aura une manne financière, mais reportée à 2027. Donc, cette rumeur, et je répète, c'est vraiment toujours une rumeur, bah, ça illustre quand même que les champions de l'intelligence artificielle restent sensibles à la volatilité des marchés, malgré tout l'engouement qu'on a. Mais globalement, si ça devait être repoussé, je peux vous garantir que Anthropic, eh bien, envisagerait à un moment de faire la même chose.
Oui, à suivre, oui, on a dans l'IA Anthropic, peut-être aussi Perplexity à venir en 2028, Antoine.
Oui, oui, eux, justement, c'était, ils voient, mais à un peu plus long terme. Donc, eux, c'est déjà prévu que ce serait plutôt vers 2028. Mais effectivement, il y a des questions à se poser sur le modèle et sur les dynamiques de développement de l'IA par rapport à ce que peut en attendre la bourse et ce que la bourse est en droit d'en attendre. Et quand on voit un petit peu le flou qui entoure certaines perspectives stratégiques et de l'aveu même des dirigeants de ces entreprises, bon, bah, il y a de quoi hésiter un petit peu à faire le grand saut du côté du marché boursier.
Et le Bitcoin, pendant ce temps, vit une mauvaise passe. Sous les 60 000 dollars, on est à 50 000 dollars en ce moment sur le Bitcoin, alors que le dollar a pas arrêté de progresser. Hein. À l'inverse, le Bitcoin en dollars recule. Bon, John, comment est-ce que vous regardez ce mouvement? Est-ce qu'on a un problème structurel désormais sur le Bitcoin?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une prise de bénéfice, qu'on le veuille ou non. Alors, vous allez me dire, évidemment, qu'on était au-delà des 120 000 dollars, mais vous avez quand même des gens qui ont investi dans le Bitcoin avant qu'il soit à 50 000. Vous avez le renforcement du dollar, mais aujourd'hui, il baisse. Vous avez tout à fait raison. Et surtout, et c'est peut-être ça la chose la plus intéressante et importante, c'est qu'on avait vu qu'à un moment, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies bien, volaient d'une certaine manière un peu de leurs propres ailes. Ils n'étaient pas corrélés à la technologie, aux secteurs qui sont plus sensibles à la hausse des taux. Et là, on a vu que depuis que Kevin Warsh nous a dit que les taux resteraient longtemps au niveau où ils sont ou plus élevés, eh bien, on est dans une situation où le Bitcoin reprend son profil de valeur liée à la technologie. Qu'on le veuille ou non, c'est pas une valeur de l'IA, bien évidemment, mais aujourd'hui, on a ce changement de tendance radical et par sympathie, je dirais, pour le Nasdaq, eh bien, le Bitcoin baisse de nouveau et à se demander. La question, c'est pas de savoir s'il y aura du Bitcoin encore dans 2 ou 3 ans parce qu'il sera là, mais la question, c'est de savoir si à nouveau, ça pourra être à un moment, eh bien, l'or des crypto-monnaies, une valeur considérée comme refuge, c'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, et l'or aussi recule beaucoup, hein. C'était hier, Antoine, l'or est passé sous les 4000 dollars. Les perspectives mondiales, parfois, on arrive à les voir, à les apercevoir à travers les publications d'entreprise. FedEx a aussi publié ses résultats, John. Le titre est en baisse cet après-midi, moins 1,5% à Wall Street.
Ouais, et pourtant, le titre en pré-marché, ça arrive souvent ces derniers temps, était en hausse parce que l'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6%. Vous allez me dire c'est faible par rapport à la tech, mais c'est vraiment au-dessus de ce qu'on attendait jusqu'à la fin 2026. Donc, c'est un peu le signe que le cycle industriel américain continue de s'améliorer. Donc, on est dans une situation où les revenus trimestriels ont dépassé les attentes et malgré, vous savez, les surcharges de carburant, parce que FedEx, bien évidemment, utilise des cargos, utilise des camions, etc. Et ça, ça coûte cher en fuel, en essence, etc. Et on est dans une situation où aujourd'hui, vous avez un marché qui sanctionne la rentabilité à court terme, puisque le résultat opérationnel ajusté a baissé de près de 24%, parce que il est pénalisé par les coûts de la scission, la baisse de volume et puis la hausse des salaires. Donc c'est ce qu'on sanctionne aujourd'hui, le court terme et pas le long terme. Et pourtant, on nous avait habitués ces derniers temps de voir loin. Et là, effectivement, bah, c'est légèrement sanctionné. 1,5, c'est pas très grave.
Et puis un dernier mot quand même sur Bumble, rumeur de cession en 20 secondes. Qu'est-ce qui se passe autour de Bumble, les applis de rencontre, John ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas que ça marche pas, hein. C'est que, en fait, il y a des rumeurs que, comme quoi, Bumble pourrait être revendu. Et s'il y a un groupe qui travaillerait avec Morgan Stanley, avec différentes opérations stratégiques. Alors, l'acheteur potentiel, ce serait Match. Vous savez, c'est vraiment le leader, hein, qui détient notamment Tinder. Mais le problème, c'est que si Match achetait, eh bien, Bumble, eh bien, il y aurait des problèmes réglementaires parce que ils auraient absolument toute la sphère des sites de rencontres. Donc, c'est très peu probable.
Merci beaucoup, John Placard, avec nous pour Cité Gestion. Dans quelques minutes, Culture ETF, Julie Connerton vous entraîne dans le monde des ETF et vous fera découvrir les dernières subtilités de cet univers. D'abord, Jean-François B, 15h46, nous rejoint pour Bourse au First. Bonjour, Jean-François.
Bonjour, Guillaume.
Oh, vous allez rendre votre verdict là face au marché. Ce verdict, est-ce que vous l'assumez ?
Je l'assume totalement.
On vous écoute.
N'oubliez pas de protéger vos portefeuilles avant de partir en vacances, car l'été risque d'être chaud.
Protégez vos portefeuilles avant de partir en vacances. L'été sera chaud, en effet. Alors, on parle là de bourse. Qu'est-ce qui vous amène à, effectivement, vouloir alerter nos auditeurs ?
On n'a pas de boule de cristal chez Boursorama, donc on n'a pas détecté et vu dans le marc de café, voir ce qui va se passer cet été. C'est juste une question statistique. C'est-à-dire, Guillaume, sur les 20 dernières années, l'été a été très peu productif et très peu performant sur les actions françaises, actions européennes. Ce sont des mois, juillet et août, qui sont pas très intéressants pour la bourse, pour les investisseurs. Vous faites de l'ordre de 0% de performance, 0 et quelques, sur ces 2 mois.
Et en Europe.
En France et en Europe. Alors, sur les marchés américains, c'est un peu plus actif. Donc, vous faites de l'ordre de 2% sur ces mois. Mais sur les 20 dernières années, ce sont des mois qui sont assez calmes sur les marchés français et européens. J'allais dire le gros de la performance sur les marchés se fait au premier semestre. On a des mois, alors on va se dire que c'est des mois assez calmes, en fait c'est faux, c'est des mois plutôt volatiles, une mauvaise volatilité, pas très performant, et parfois ça baisse pas mal. Alors une raison simple, c'est qu'il n'y a pas plus d'acheteurs, les acheteurs partent en vacances. On a juillet-août, les juilletistes et les aoûtiens qui sont partis. Et donc, du coup, ça donne très peu de volume sur les marchés. Et quand il y a un coup de Trafalgar, on voit effectivement que ça a tendance à corriger. Donc, pour ça, il vaut mieux, je dirais, s'alléger et protéger. Le deuxième élément qui est important, c'est que ces baisses ou ces mois décevants sur juillet-août se font souvent quand le premier semestre a été plutôt bon. Aïe. Vous avez un bon début semestre.
C'est le cas cette année, malheureusement.
Ben, c'est le cas cette année.
Tant mieux, mais ça augure d'un été peut-être un peu difficile.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des prises de profit et on revient sur ses portefeuilles au mois d'octobre-novembre pour terminer l'année. Mais en gros, il y a un creux, surtout quand le premier semestre a été positif. Alors, malheureusement ou heureusement pour tous les investisseurs, le CAC sur les trois derniers mois, je le rappelle, a fait 8%, mais le Nasdaq a fait 18%, le Nikkei 34, la Corée plus 80. Sur certaines valeurs, j'ai pris ST Microelectronics, Dell, Intel, on est sur de l'ordre de 130-200% sur les trois derniers mois. Donc c'est vraiment les trois derniers mois après le calme dans la guerre au Moyen-Orient, où on a vu c'est pas un marché en K, c'est un marché en V. Il y a eu un vrai rebond sur les trois derniers mois. Et malheureusement aussi, les marchés obligataires ne protègent plus tant. C'est-à-dire que sur le mois de mars où les marchés actions étaient vraiment très compliqués, les obligations aussi ont beaucoup baissé puisqu'on parlait de hausse des taux, de hausse du prix du pétrole. Et pendant le mois de juin où les actions ont vraiment rebondi et ont très bien performé, les obligations ont aussi très bien performé. Donc on a cette décorrélation qui est complètement absente. Au contraire, on a une corrélation qui rend difficile la diversification via des actifs obligataires. Alors, je vous parle pas des dollars, je vous parle pas du bitcoin, je vous parle pas de toutes les autres types de classes d'actifs qu'on regarde pour diversifier.
Non, mais c'est principalement ça le problème, c'est qu'en plus, on peut pas avoir une optique globale parce que le marché est devenu extrêmement granulaire. Dans un même secteur, il y a une disparité qui est extraordinaire. Et sur certaines classes d'actifs, c'est finalement une double granularité. Alors, comment on arrive à se protéger avec des marchés qui bougent vraiment comme ça en ordre dispersé?
Alors, à court terme, d'une manière tactique, on veut partir en vacances, on veut bien dormir la nuit, on peut mettre du cash, on peut mettre des fonds en euros dans l'assurance vie.
Pour bien dormir la nuit, on peut climatiser nos portefeuilles.
Et on peut climatiser son portefeuille, désensibiliser son portefeuille. D'accord. L'autre élément pour désensibiliser, c'est de passer par des gérants type fonds flexibles. Je l'ai dit, les fonds équilibrés, actions obliques, sont plus très utiles et plus très diversifiés, moins diversifiés en tout cas. Le fonds flexible permet justement de profiter d'un gérant expérimenté qui va jouer de manière tactique un peu ces marchés d'une manière un peu prudente. Là, on va avoir des gérants que vous connaissez tous, DNCA, Varenne, Carmignac, le célèbre Carmignac Patrimoine, le fleuron français et qui tient la barre et qui représente un peu cette catégorie de fonds flexibles prudents. J'ai noté aussi des fonds qu'on qualifie d'absolute return. On a des performances absolues. J'ai retenu un fonds chez BlackRock qui s'appelle BlackRock Absolute Return. Donc là, on joue plutôt l'alpha dans le sens où on considère que le bêta, hein, le bêta de marché va être contraire, va présenter des vents contraires. Donc on se met sur une zone, un safe haven, comme on dit en anglais, et donc on se met sur une approche plutôt alpha. Et là, on va retrouver, je parlais de BlackRock, on a SideQuant, on a BDL en France, on a Longchamp Patrimoine. Donc ce sont des fonds alternatifs, liquides, quotidiens, qui permettent de protéger des portefeuilles.
Voilà quelques idées. Bourseau first. Vous vouliez ajouter un mot, Jean-François? Je vous vois plein d'idées dans les yeux, là. Qu'est-ce que vous vouliez dire de plus?
Non, mais Bourseau first, on accompagne nos clients dans justement ces
lectures. Ah, c'est le disclaimer. Ah oui, d'accord.
Attention à pas mettre entre toutes les mains. Avertissement, les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Ah oui, et toutes choses étant égales par ailleurs.
Exactement.
Jean-François.
Et bon été, surtout.
Et bon été. On se revoit pas avant l'été, là, Jean-François?
Oui,
mais on vous retrouvera la saison prochaine.
Exactement. Avec grand plaisir, bien sûr.
Ben oui, plaisir partagé. Jean-François B, qui est là depuis combien de temps sur l'antenne de
Ça va bientôt faire une vingtaine d'années. J'ai commencé très jeune, donc à l'époque, on n'était pas loin du périph'. Ouais.
Et sur BFM,
pas loin de Porte de Versailles.
Et sur BFM, et
déjà sur BFM.
Elle fait partie
du canal historique.
Exactement. Salut Jean-François.
Salut.
Bon été. Le CAC 40 est en baisse en ce moment, moins 0,8%. Dans quelques minutes, valeur ajoutée, une idée en plus. Si vous voulez compléter vos portefeuilles, et je sais que c'est votre cas parce que vous nous demandez régulièrement des idées, bien c'est tous les jours valeur ajoutée qui sera ensuite, donc à 16h10 en direct, disponible en replay et en podcast tout le week-end.
BFM Bourse, Culture ETF.
Optimisez vos chances en toute paresse. Laissez faire les ETF à votre place. Julie Connerton et ses experts vous accompagnent. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Entre les produits qui s'ajustent à votre âge et ceux dopés aux options, investir en toute simplicité sur les ETF relève parfois et désormais peut-être du défi. Faut-il craindre la complexité des nouveaux ETF ? On pose la question aujourd'hui à notre expert, c'est Benoît Sorel pour Amundi qui nous accompagne. Oh. Bonjour Benoît.
Bonjour Julie.
Merci d'être avec nous. Benoît, on débute par les flux. Les flux depuis le début de l'année, ils sont insolents. Quel est l'état des lieux ?
Alors insolents, c'est fort, mais oui, ils sont records. C'est-à-dire que pour donner un ordre de grandeur, depuis le début de l'année, on est, si j'arrondis largement, on est au-dessus de 200 milliards d'euros de collecte. L'an dernier, qui était une année record de 30% record, on était à 150 au même niveau. Donc on est 40% au-dessus de l'année record de tous les temps. Sachant qu'on a eu les plus gros mois de tous les temps, en fait, en janvier, en février, en avril et en mai. Il y a juste eu le mois de mars où il y a eu un ralentissement avec la guerre en Iran qui a ralenti un peu tout le marché. Ce qui est intéressant, avant d'aller dans les produits plus complexes dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'on a une grande partie de ces flux qui va sur des indices très simples, très diversifiés, globaux, monde, acquis, donc avec les émergents. Où on voit des programmes d'investissement mensuels où tous les mois, si vous avez 20 euros, 200 euros, 2000 euros à économiser, vous pouvez investir systématiquement là-dedans. Et on voit que ces flux-là sont à peu près maintenant de 15 milliards tous les mois, alors qu'on était à peu près à 9 milliards l'an dernier. Donc une grande accélération.
Alors quand on parle d'ETF, on pense à la simplicité avant tout, sauf qu'on voit émerger des stratégies qui sont un peu tactiques, hein, notamment aux États-Unis. Pourquoi ce regain d'intérêt pour une gestion un petit peu plus ciblée, alors qu'on pourrait tout simplement se laisser porter par le marché ?
Alors on se laisse encore beaucoup porter par le marché. Si vous regardez les flux sur les derniers mois, sur le mois dernier, par exemple, on a eu 9 milliards sur les États-Unis. Il y a 8 milliards qui restent sur des indices très larges, type large cap, S&P 500, MSCI USA. Il y a eu un milliard sur des indices plus de précision. Et en effet, il y a quand même des débats maintenant sur les actions américaines. Donc, typiquement, des indices méga cap, ex-méga cap, qui permettent de piloter un peu plus finement votre allocation sur les actions américaines.
Oui, alors on est en train de parler de ces ETF, donc il y a d'autres questions qui nous viennent à l'esprit, par exemple, entre profil évolutif, ETF à options, thématiques ciblées, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le particulier alors qu'il cherche la simplicité via les ETF, l'entraîner dans plus de complexité au contraire ?
Alors c'est une très bonne question, parce qu'en effet la beauté de l'ETF est qu'on arrive enfin à donner accès au marché financier à l'investisseur particulier, ou si on se met à la génération de nos parents, très peu, voire personne n'avait d'action. La génération de nos enfants ou de nos cousins, ils en ont beaucoup via des ETF. Et donc, ces indices très diversifiés type MSCI World ont été la première pierre à cet édifice. Et maintenant, en effet, on voit des indices plus complexes. Donc, vous parliez ce qu'on appelle les life cycles. Donc, c'est des indices qui ont été vendus depuis très très longtemps, en fait, à toutes les entreprises, pour gérer les retraites. Et selon votre profil de risque, votre âge, typiquement, votre horizon de placement, si vous investissez à 20 ans, bah vous pouvez aller all-in en action. Si vous investissez à 10 ans, peut-être un peu moins. Et donc avoir un deleveraging de vos actifs risqués sur le temps, selon votre horizon de placement. Et donc on voit ça maintenant arriver en ETF. Et là où vous avez raison, c'est qu'autant le MSCI World, n'importe qui peut aller l'acheter tout seul sur le marché de façon très simple. Là, il faut probablement un intermédiaire, qu'il soit digital ou humain, pour vous expliquer quel est votre profil de risque, quelle est votre raison de
placement. C'est là qu'arrivent les frais, etc. quand même. Quoi.
Alors, la beauté de l'ETF, c'est que justement, il a une transparence totale là-dessus. Donc,
c'est transparent, c'est vrai. Les ETF qui intègrent des stratégies d'options aussi, ça permet, en échange d'une paire future, pourquoi pas d'échanger du cash immédiat. Comment ça fonctionne, cette mécanique fonctionne ?
Alors, là, l'ETF, donc je vais parler d'abord de l'ETF qui...
Je plafonne ma paire future pour avoir du cash immédiatement.
Je la plafonne pas, mais je la mitige.
D'accord.
Ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on va vendre une option, donc on va abandonner une partie de la hausse du marché contre un rendement certain. Et donc ça permet de transformer le risque-action en rendement. C'est aussi bête que ça.
Et alors, comment, d'un point de vue sectoriel, on fait aujourd'hui si on veut sélectionner, par exemple, des méga-tendances, mais le tout sans se tromper ?
Alors, la beauté de la méga-tendance, c'est que sa définition est que c'est une tendance très long terme. Donc, se tromper est compliqué a priori si on va sélectionner des bonnes méga-tendances. Mais là où vous avez un très bon point, c'est qu'on voit de plus en plus de micro-tendances. Typiquement, si on prend l'intelligence artificielle, méga-tendance, se dire qu'on investit sur l'univers de l'intelligence artificielle à moyen terme, voire à long terme, paraît relativement intelligent. Après, on peut aller plus précisément. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait les data centers ? Est-ce qu'on fait les microprocesseurs ? Est-ce qu'on fait les cartes mémoire ? Et donc là, les cartes mémoire, typiquement, on voit depuis le début de la semaine, avec notamment les annonces chez Apple, qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau mondial sur la production de ces cartes mémoire en Corée, à Taïwan. Là, on est plus sur une micro-tendance, en effet, qui va être un peu plus volatile que la méga-tendance qui va être, elle, sur des 5, 10, 15, 20 ans.
Merci beaucoup, Benoît Sorel, pour Amundi d'être passé nous voir.
Dans un instant, on va parler de cette valeur qui gagne 30% Exel. Il semblerait que Safran s'intéresse grandement à Exel pour, pourquoi pas, le racheter. La pépite, vous savez, drone sous-marin, entre autres, Exel, cette pépite française dont on entend beaucoup parler, par exemple, pour déminer le détroit d'Ormuz, plus 28% Exel. Safran, au contraire, recule de 2,6%. On s'en parle dans un instant avec Antoine qui va nous rejoindre. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.